Un rapport du Think Tank European Council for Foreign Relations, comprenez le ECFR, a été publié ce mois-ci. Ben, il prédit, ce EFCR machin, prédit une percée de l'extrême droite aux élections européennes de juin 2024. Alors, à quoi s'attendre? Comment cela va-t-il impacter la direction de l'Union européenne? Ben, on a décidé d'en parler, et Lucie Gilson s'y est collée. Elle en parle avec notre invité Olivier Costa, il est directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne au Collège d'Europe. Voici son avis.
Olivier Costa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne et professeur au Collège d'Europe. Un rapport préparé par le think tank European Council for Foreign Relations a été publié ce mois-ci et prédit une poussée de popularité des partis d'extrême droite aux prochaines élections européennes. Donc, les projections de ce rapport prévoient notamment un remaniement des cartes dans la répartition des sièges des partis traditionnels européens et prévoient la victoire des groupes politiques de droite, ICR et Identité et démocratie. Comment l'analyser?
On a une montée de l'extrême droite un peu partout en Europe et pas seulement en Europe. Regardez ce qui se passe en Argentine, au Brésil ou aux États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années. Et effectivement, tout ça va se traduire dans les urnes à l'occasion des élections européennes du mois de juin prochain, parce qu'on a un peu la même configuration dans toute une série de pays européens. Et effectivement, l'extrême droite doit arriver, selon ce sondage, en tête dans 9 États sur 27 et en deuxième ou troisième position dans à peu près tous les autres, ce qui se traduira mécaniquement par une poussée des forces de la droite conservatrice et de l'extrême droite au sein du Parlement européen.
Et donc, comment cela pourra-t-il changer la dynamique politique au sein du Parlement européen et influencer les négociations, les coalitions et, à terme, influer sur la direction de l'Union européenne?
Historiquement, au Parlement européen, c'est les socialistes et les démocrates chrétiens qui dominent le jeu. On a toujours eu ces grands groupes du centre-gauche et du centre-droit qui travaillaient ensemble parce que globalement, sur les questions européennes, ils sont relativement d'accord. L'intégration européenne, c'est un projet qui a été porté par ces deux familles politiques et ils ont toujours réussi à trouver les moyens de travailler ensemble pour soutenir de nouveaux textes, de soutenir l'action de la Commission européenne. Ce qui risque de changer en juin prochain, c'est qu'on ait une réduction de la taille de ces deux groupes politiques et peut-être la tentation pour les démocrates chrétiens de travailler avec les groupes qui sont plus à droite qu'eux, plutôt que de travailler avec les groupes qui sont plus à gauche qu'eux, comme ils en avaient l'habitude. On risque d'être dans une configuration où on sera un peu dans trois blocs de 25%, les socialistes et disons les verts, les démocrates chrétiens et l'extrême droite, et donc avec la possibilité pour la droite de travailler avec l'extrême droite sur un certain nombre de dossiers.
Cela impulse-t-il un changement de direction sur les grands dossiers diplomatiques en cours? Je pense notamment à la position européenne sur le conflit au Proche-Orient.
Oui, ça va avoir un impact sur pas mal de dossiers, pas sur tous, parce que depuis toujours au Parlement européen, on a un peu des configurations qui sont variables selon les sujets. Mais là, il est clair que sur les questions de relations internationales, sur la question des relations de l'Union européenne avec la Russie, mais aussi avec Israël, sur la question aussi de la politique environnementale, de la lutte contre le changement climatique, de la politique migratoire, on risque de voir émerger des majorités alternatives qui seraient composées des démocrates chrétiens qui travailleraient avec les conservateurs et l'extrême droite pour trouver des majorités à droite plutôt que de trouver des majorités au centre. Et donc, ça risque de se traduire par une forme de régression de l'action de l'Union européenne dans le domaine de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, et aussi une forme peut-être de repli de l'Union européenne en matière de relations internationales, puisqu'on sait que l'extrême droite a un peu tendance à considérer que ce qui se passe dans le monde n'est pas notre sujet et que l'Union européenne ne doit pas s'en mêler.
Alors, vous l'avez dit, on note également une montée des populismes et des partis d'extrême droite dans certains États membres, tels que l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie. Il est donc relativement logique que cela se reflète au niveau européen. Est-ce que ça va aussi affaiblir, affaiblir le Parlement européen et l'impact que ça peut avoir?
Affaiblir le Parlement européen, oui, en ce sens que ça va créer une forme de chaos au sein du Parlement européen. Le Parlement européen a toujours eu besoin d'être très stratégique, très organisé pour arriver à peser et à se faire entendre face à la Commission d'un côté, face aux représentants des États membres de l'autre côté. Il arrivait à le faire au prix de larges majorités qui étaient trouvées entre la droite, la gauche, les libéraux, parfois les verts, de manière à avoir de très fortes majorités pour se faire entendre des États, pour se faire entendre de la Commission. On risque d'avoir dans le prochain Parlement européen une situation beaucoup plus fragmentée, beaucoup plus complexe, avec peut-être des majorités entre la gauche et la droite traditionnelle sur les questions institutionnelles, et comme je l'ai dit, sur les questions de relations internationales ou sur les questions de climat et d'environnement ou de migration, des majorités plus à l'extrême droite, et plus sûrement un chaos, parce que l'extrême droite, ça date pas d'aujourd'hui qu'elle est relativement puissante au sein du Parlement européen, mais par définition, l'extrême droite n'est pas très douée pour s'organiser à l'échelle européenne. Les gens d'extrême droite sont souvent un peu xénophobes et donc n'ont pas un goût immodéré pour le travail à l'échelle supranationale. Donc le risque est surtout que le Parlement européen soit un peu hors du jeu pendant la prochaine législature.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je voulais aussi qu'on parle de. Bon, on connaît Frexit. Bon, après le Brexit, maintenant l'Allemagne apparemment a un parti qui commence à émerger, qui suggère le retrait de l'Allemagne de l'Union européenne. Et c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à l'affaiblissement en fait du pouvoir européen.
Oui, alors, on a beaucoup parlé de la possibilité d'un départ en cascade de toutes sortes d'États après le vote du référendum sur le Brexit en 2016, et on a vu que ça n'est pas arrivé parce qu'on a découvert à la faveur du Brexit que sortir de l'Union européenne, c'est pas aussi simple que ça et que c'est pas une recette miracle. Et il y a eu un réalignement, je dirais, des partis d'extrême droite sur ces questions où beaucoup ont dit, ah, mais nous, on n'a jamais envisagé de sortir de l'Union ou de sortir de l'euro. Donc je crois qu'on n'en est pas encore là, mais on peut très bien rester dans l'Union européenne et avoir des positions relativement timides et conservatrices sur ces questions en disant pas de réforme des institutions, pas de grande politique industrielle, pas davantage d'investissement, sans pour autant sortir de l'Union européenne. On peut très bien se retrouver dans une situation où, parce que l'extrême droite pèserait plus au Parlement européen, mais aussi au Conseil, puisque vous l'avez dit, l'extrême droite a des succès électoraux aussi à l'échelle nationale, on se retrouve progressivement dans une Union européenne qui ne disparaîtrait pas, mais qui serait un peu plus apathique, moins capable de prendre en charge les grands dossiers, moins capable de défendre ses intérêts sur la scène internationale.
Et donc, vous l'avez dit également, c'est un argumentaire qui n'est pas nouveau. On avait entendu les mêmes craintes au sujet des précédents scrutins européens, notamment en 2019, mais et même plus tôt en 2014. Quelle est la différence avec ce scrutin en particulier?
On est simplement dans un continuum. Je parlais tout à l'heure du fait que les socialistes et les démocrates chrétiens, historiquement, dominent le Parlement européen. Il fut un temps où les deux groupes ensemble avaient quasiment les trois quarts des sièges au Parlement européen. Et on va dire que tous les 5 ans, ils perdent 5% à eux deux. Donc, c'est un processus qui est assez progressif. L'extrême droite est entrée au Parlement européen dès 1979, dès les premières élections européennes, et on pourrait dire que depuis, mécaniquement et systématiquement, à chaque élection, ils se renforcent. À chaque élection, ils vont gagner 3, 4, 5%. Et ce qui risque de se passer cette année, c'est simplement que l'extrême droite soit cette fois-ci en situation de vraiment bloquer le jeu au sein du Parlement européen, de devenir la deuxième force au sein du Parlement européen, et à défaut d'arriver à vraiment dicter la politique du Parlement européen, au moins en entraver sérieusement le fonctionnement.
Et donc maintenant, revenons-en à la présidence belge de l'Union européenne qui a pris la présidence tournante du Conseil européen justement en janvier. Est-ce que ça peut représenter, enfin ça représente de toute manière un vrai défi pour la présidence, en quoi?
Bah, le défi, ça sera un peu pour la présidence suivante, puisque les élections auront lieu entre le 6 et le 9 juin et la présidence belge s'arrêtera fin juin. Donc, d'une certaine manière, ça sera un cadeau laissé aux présidences suivantes. La vraie difficulté pour la présidence belge, c'est qu'il y a une espèce de contexte politique qui est assez toxique aujourd'hui, avec donc la campagne pour les élections européennes qui commence déjà, avec des gouvernements à l'échelle nationale dont certains sont déjà gouvernés par l'extrême droite ou avec des coalitions où l'extrême droite a son mot à dire. Et on a aussi un certain nombre de partis, de pays où l'extrême droite n'est pas au gouvernement, mais on a des espèces de stratégies des gouvernements pour essayer de lui faire pied. Et on voit bien, par exemple, ce que ça donne en France avec Monsieur Macron, qui a un discours qui est de plus en plus droitier pour essayer, d'une certaine manière, de capter l'électorat qui est tenté par le Rassemblement national. Et on voit que la thématique européenne a complètement disparu de l'agenda du président. Il ne parle plus du tout d'Union européenne. En Allemagne, on est dans une situation qui est un peu la même pour des raisons différentes. C'est aussi parce que la coalition au pouvoir est très tendue. Donc le vrai défi pour la présidence belge aujourd'hui, c'est de trouver parmi les 27 des gens qui sont prêts à faire quelque chose, qui sont prêts à avancer, à prendre des initiatives. Tout le monde est assez attentiste en ce moment avec l'idée qu'on va regarder ces élections, du 6 au 9 juin et essayer de limiter au maximum la montée de l'extrême droite et la croyance qu'on empêche l'extrême droite de monter en disant des choses qui, d'une certaine manière, font plaisir aux électeurs d'extrême droite, ce dont je ne suis pas convaincu d'ailleurs.
Est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'on peut prendre, est-ce que la présidence belge justement pourrait avoir un impact un réel impact en fait sur cette poussée?
Moi, je pense que la présidence belge peut faire une chose, c'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'extrême droite gagne ses élections et sortir un petit peu d'un débat où tout le monde se défie de l'Union européenne. Et on l'entend très fortement ces jours-ci avec les contestations des agriculteurs où tout est la faute à l'Europe, et dire que l'Union européenne est aussi porteuse d'un certain nombre d'opportunités, de chances, que l'Union européenne, c'est peut-être le bon échelon pour adresser les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui, la question de la sécurité internationale, la question de la paix, la question des migrations, la question du réchauffement climatique, de la concurrence économique. Il faut que quelqu'un ait le courage de dire à un moment donné, sortir du discours qui est porté par l'extrême droite et dire non, l'Union européenne peut être aussi un outil pour rendre un certain nombre de services aux citoyens. On l'a bien vu ces 10 ou 15 dernières années avec l'Union européenne qui est venue régler une série de crises de manière relativement efficace. Et donc, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'attentisme des gouvernements républicains, des partis républicains un peu partout en Europe, qui sont à la remorque de l'extrême droite, n'embrayent pas réellement le pas pour dire du mal de l'Union européenne, mais ils ne veulent plus en dire du bien, ce qui me semble assez préjudiciable pour la campagne électorale.
Olivier Costa, je rappelle que vous êtes directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne et professeur au Collège d'Europe. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci.